Drame familial à Paita. Hier soir, un homme de 53 ans a reconnu avoir tué son père à coups de sabre d'abattu. La campagne de prélèvement de requins a débuté à Nouméa. Elle va durer 4 jours dans la bande des 400 mètres entre la baie de Sainte-Marie et le rocher à la voile. L'actualité internationale, des tirs de joie dans le ciel de Beyrouth pour célébrer l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban. Une trêve de 10 jours qui est une occasion de paix historique selon Tel Aviv. De son côté, l'Iran renoncerait à l'arme nucléaire et céderait ses 400 kilos d'uranium enrichi. Une deuxième session de pourparlers pourrait être organisée prochainement entre Washington et Téhéran en vue d'un accord de paix. L'actualité sportive et cette qualification historique en demi-finale d'une Coupe d'Europe pour Strasbourg. Le club alsacien a battu Mayence 4-0 en Ligue Europa Conférence. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au rendez-vous politique du vendredi. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et votre invité dans le magazine Transparence sera le nouveau maire de Dimbéa.
Et oui, après Antoine Roman, le nouveau maire de Païta la semaine dernière, c'est Cynthia Jean, le nouveau maire de Dimbéa, qui sera l'invité du magazine Transparence. Nous lui demanderons comment elle interprète sa victoire et quelles sont ses priorités et ses projets pour la commune. Nous évoquerons aussi avec elle l'actualité politique. On se retrouve donc d'ici une petite demi-heure en compagnie de Cynthia Jean. Ce sera juste après votre journal.
Et autre rendez-vous du vendredi, c'est le club politique.
Et dans le club politique, nous parlerons bien sûr des discussions menées par Sébastien Lecornu et des différents scénarios qui sont aujourd'hui envisagés. Nous reviendrons aussi sur la lettre que Christian Théin a écrite au Premier ministre et sur les propositions de Georges Naturel sur le corps électoral. Et puis nous décrypterons enfin la question de la tête de liste des provinciales après le communiqué d'Alcide Ponga qui suscite beaucoup de polémiques. On se retrouvera cet après-midi à partir de 16h45 pour ce club politique.
À la une de l'actualité, cette altercation qui vire au drame. Hier à Païta, un homme de 78 ans a été retrouvé mort avec d'importantes blessures à la tête. La piste privilégiée par les enquêteurs, Charlotte Coulson, il aurait été tué à coups de sabre par son fils.
19h45, hier soir à Païta, une patrouille de gendarmerie est envoyée dans le quartier d'Ondémia pour une affaire de violence intrafamiliale. Ce qu'il découvre sur place est macabre, le corps d'un homme allongé sur le sol, gisant dans une mare de sang et présentant d'importantes blessures à la tête. Très vite, l'auteur présumé est identifié. Un homme de 53 ans dit aux gendarmes avoir tué son père à la suite d'une altercation. Après examen du médecin légiste, la victime, âgée de 78 ans, aurait reçu une quinzaine de coups de sabre à la tête. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime et l'auteur présumé étaient souvent en conflit. Ce dernier a tout de suite été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour homicide volontaire aggravé commis sur un ascendant et encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans le reste de l'actualité ce midi, la province sud et la mairie de Nouméa vont mener une nouvelle campagne de prélèvement de requins après l'attaque dont a été victime mercredi soir un rameur de Vaha à la Côte Blanche. Une attaque d'une gravité particulière, nous a dit le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui a rappelé qu'un kayakiste avait également été la cible d'un requin peu auparavant. Elle était notre invitée du matin à 7h30. Elle nous a annoncé le lancement d'une campagne de prélèvement.
J'ai pris un arrêté pour interdire la baignade et toutes les activités nautiques dans toute la zone de Nouméa. Et j'ai aussi fait un courrier à la présidente de la province sud pour lui demander de déclencher une campagne de pêche. Donc cette campagne débute aujourd'hui pour 4 jours. Ils pêcheront dans la zone des 300 mètres en allant du rocher à la voile jusqu'à Sainte-Marie, dans cette zone qui pose particulièrement souci. Et donc on est dans un système dérogatoire bien évidemment qui permet de pouvoir prélever dans un cas de post-attaque.
Et cette campagne débute aujourd'hui pour 4 jours et elle se déroulera de 8h à 18h entre la baie de Sainte-Marie et le rocher à la voile. En raison des circonstances, la baignade et les activités nautiques seront interdites jusqu'au lundi 27 avril. Une campagne de prélèvement avait déjà été effectuée au mois de mars et elle avait permis de pêcher une dizaine de requins.
Une dizaine, dont des bestioles qui faisaient plus de 4 mètres. La plus grosse, une femelle tigre de 4,20 mètres. Mais tous pratiquement avoisinaient les 4 mètres. Alors vous savez, il y a un article dans le code de l'environnement où quand on fait des pêches comme ça, on est obligé de pêcher des spécimens qui font pour les tigres 2,50 mètres. S'ils sont en deçà, bien sûr qu'on les relâche. Et pour les bulldogs, 2 mètres. La dernière pêche, sur les 10 spécimens, ils avoisinaient pratiquement tous, enfin 8 sur 10, plus de 4 mètres. Donc on voit bien que d'abord il y en a beaucoup, de plus en plus. Ça c'est un fait avéré, qu'on soit un pêcheur, qu'on soit des gens qui pratiquent des activités nautiques, eh bien on s'aperçoit que ces spécimens sont de plus en plus gros, ils sont de plus en plus proches des côtes, ils viennent très près, et que ça pose aujourd'hui un véritable souci qui interroge.
Et pour faire face à la situation, la municipalité a déjà fait installer des barrières anti-requins à la baie des Citrons et à hauteur de la plage du Château Royal. Des études sont en cours pour d'ailleurs installer un filet à Lansvata, mais la situation est plus difficile en raison de la force de la houle. Alors certains contestent ces campagnes de prélèvement, mais il faut bien trouver des solutions, souligne le maire de Nouméa. Et Sonia Lagarde estime indispensables ces prélèvements.
Il y a beaucoup de gens qui s'offusquent en disant « mais les requins sont dans la mer, après tout, c'est leur environnement ». Moi, je veux bien comprendre ça. Mais on est quand même dans une île où les activités nautiques sont légion. Et donc, on ne peut pas interdire demain aux gens d'aller faire du wingfall, du windsurf, voire faire du va'a ou voire faire du kayak. Et donc, réguler, ça me semble aujourd'hui quelque chose d'indispensable. On régule les cerfs parce qu'ils sont très nombreux et ils font des ravages dans nos forêts sans que personne ne s'en offusque quand il y a des régulations. Et donc, dès qu'on régule sur les requins, parce qu'on a aujourd'hui le fait de les avoir protégés, on en a beaucoup plus qu'avant, et de plus en plus gros, et de plus en plus proche des côtes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on régule, comme pour les cerfs? Ben c'est la question, et moi j'aimerais bien qu'on réponde à ça.
Et on sait que le tribunal administratif est régulièrement saisi par l'association EPLP qui s'oppose à ces prélèvements. Le tribunal doit encore statuer au fond, rappelle Sonia Lagarde, qui précise que l'association environnementale demande à la municipalité 340 millions de francs de dommages et intérêts, en plus d'avoir déposé une plainte au pénal.
RRB, il est 11h36.
Dans l'actualité politique, une nouvelle réaction au communiqué d'Alcide Ponga, dans lequel le président du Rassemblement propose que ce soit Génération NC, le parti de Nicolas Metzdorf, qui conduise la liste unitaire des partis de la France en province sud. On a appris ce matin la démission du rassemblement d'Éric Guay, l'ancien maire du Mont d'Or, qui est une figure historique du parti. Éric Guay déclare être totalement opposé à la ligne politique du communiqué du rassemblement. Il indique que cela ne correspond en aucune manière aux valeurs qu'il défend sur le vivre ensemble et il ajoute qu'il ne partage rien avec les loyalistes et encore moins avec Génération NC. Éric Guay estime en outre qu'un tel positionnement politique mériterait au moins d'être validé par les militants au cours d'un congrès. Éric Guay qui a donc décidé de démissionner du rassemblement dont il était membre depuis sa création il y a 49 ans. Le maire de Nouméa, qui était notre invité du matin, vous venez de l'entendre, a aussi été interrogé sur cette actualité politique et sur la polémique qui se développe depuis la publication du communiqué du président du Rassemblement. Écoutez la réaction de Sonia Lagarde.
Quand on arrive à faire ça, à se balancer des communiqués entre les uns et les autres, moi je trouve que ça relève de l'irresponsabilité. L'unité doit prévaloir dans cette élection. Et donc c'est pas le temps de la discorde et certainement pas d'aller afficher cette discorde sur la place publique. Alors après, on sort d'une élection municipale qui a été rude pour certains. Il y en a qui n'ont pas gagné, puis il y en a qui ont gagné. Alors ceux qui n'ont pas gagné, peut-être qu'il y a de l'amertume, peut-être qu'il y a des frustrations, un échec qu'on n'avait pas imaginé. Et donc, ça nécessite de se poser. Ça nécessite qu'il y ait de la place surtout pour la raison et certainement pas pour les amertumes. Les Calédoniens attendent autre chose que ça. Ils attendent de la sérénité de la part de leurs élus. Et quand on a des comportements comme ça, qu'on est en train de laver le linge sale devant tout le monde, je crois que, franchement, il faut porter un projet d'unité, c'est ce que tout le monde attend, et non pas un projet de division.
Une interview de Sonia Lagarde à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. En bref, une mission de la délégation sénatoriale aux Outre-mer en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna du 17 au 24 avril. La présidente de la délégation, Micheline Jacques, est accompagnée de 5 sénateurs, dont les 2 élus de Nouvelle-Calédonie, Georges Naturel et Robert Rowy. Des entretiens institutionnels, politiques et économiques sont au programme de la délégation qui arrive aujourd'hui et qui se rendra à Wallis du 18 au 20 avril. Cette mission vise à approfondir l'analyse des enjeux de coopération régionale dans le Pacifique, notamment dans les domaines institutionnels, économiques, diplomatiques, sécuritaires, scientifiques et éducatifs.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Pensez-vous que l'adoption par le Congrès de la délibération pour valoriser le travail des personnels des hôpitaux va permettre de stabiliser les effectifs? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'une solution va être trouvée pour la reprise du trafic d'Aircale vers les îles Loyauté. Ils sont donc 3% à penser qu'aucune solution ne sera trouvé. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 11h passé de 40 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité en métropole et dans le monde. Et au niveau international, eh bien, il y a de l'espoir au Moyen-Orient.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Cet été, offrez-vous un moment détente au Ramadan Nouméa. Accès piscine plus déjeuner pour seulement 4000 francs adultes et 2000 francs enfants. Plongez, relaxez-vous et profitez. Réservé au 23 90 00. Ramadan Nouméa, le bonheur sous le soleil.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité à l'étranger et plusieurs pas ces dernières heures vers une désescalade au Moyen-Orient. Et alors qu'une deuxième session de pourparlers de paix est en cours de préparation entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump se montre plus optimiste que jamais. Le président américain qui assure que Téhéran est prêt à des concessions majeures, Laura Legault.
Oui, l'Iran serait prêt à céder son uranium enrichi, c'est ce qu'annonce le président américain.
C'est très important que l'Iran ne dispose pas de l'arme nucléaire. Ils ont consenti à cela. Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire qui se trouvait très profondément sous terre à cause de l'attaque que nous avons menée avec les bombardiers B-2. Nous avons donc beaucoup de points d'accord avec l'Iran et je pense que quelque chose de très positif va se produire.
L'uranium enrichi, c'est l'une des exigences clés des États-Unis pour parvenir à un accord avec l'Iran. Le pays dispose de plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. En quelques semaines seulement, l'Iran pourrait l'enrichir jusqu'à 90% et construire une dizaine de bombes nucléaires. Un scénario redouté tant par les États-Unis que par Israël, comme l'explique Fabien Bouglé, expert en politique énergétique. Il était l'invité d'Europe 1 Soir.
Les États-Unis ont utilisé cet argument pour lancer la guerre. Il faut dire que c'est absolument vital pour Israël, parce que si l'Iran disposait de l'arme nucléaire, ça crée une incroyable épée de Damoclès et un enjeu géopolitique majeur.
Reste à savoir qui pourrait récupérer ces stocks d'uranium enrichi. La Russie s'était notamment portée volontaire après l'échec des négociations entre Américains et Iraniens à Islamabad.
Laura Legault pour Europe 1. Et sur l'autre théâtre d'opération de cette guerre, au Liban maintenant, où l'armée israélienne combat le Hezbollah, le cessez-le-feu de 10 jours est entré en vigueur. Le Premier ministre israélien évoque d'ailleurs une occasion de paix historique. Frédéric Simon pour Europe 1.
Oui, et le président américain est du même avis, puisqu'il affirme que Benjamin Netanyahou et Joseph Aoun, le président libanais, pourraient se rencontrer à Washington d'ici 2 semaines au plus tard. Mais les obstacles pouvant empêcher cette rencontre historique sont de taille. Le Hezbollah, inclus dans le cessez-le-feu, s'oppose pourtant frontalement aux négociations directes entre le Liban et Israël, et elle a préservé, en dépit des nombreuses frappes israéliennes, ses capacités de nuisance. Dans les heures précédant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la milice pro-iranienne a lancé et lance encore, à l'heure où nous parlons, de nombreuses roquettes sur les localités du nord d'Israël, faisant plusieurs blessés, dont un grave. Les élus locaux ont d'ailleurs exprimé leur opposition au cessez-le-feu. Eux et leurs administrés estiment que l'interruption des combats est prématurée et qu'elle permettra à la milice chiite de se réorganiser. Il n'est pas certain donc que le maintien des troupes israéliennes déployée dans le sud Liban, prévue pour la période de trêve, suffisent à les rassurer. L'annonce de cessez-le-feu a par ailleurs pris de court la classe politique. Plusieurs ministres auraient fait part de leur mécontentement. C'est par les médias qu'ils ont été tenus informés et n'ont pas été convoqués pour débattre du cessez-le-feu. Certains d'entre eux ont demandé à Benjamin Netanyahou la tenue d'un vote au sein du cabinet sécuritaire et n'ont pas obtenu gain de cause.
Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que le président libanais Joseph Aoun se rendront à la Maison Blanche dans les 4 ou 5 jours à venir. C'est ce qu'indique ce matin Donald Trump. L'actualité en métropole et l'examen du texte promettaient d'être explosifs. Il n'a finalement pas eu lieu. La proposition de loi portée par la députée macroniste Caroline Yadan visant à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme a finalement été retirée par le groupe Ensemble pour la République face à l'obstruction parlementaire de LFI. Mais plusieurs mesures de ce texte, vivement critiquées à gauche, devraient être retenues par le gouvernement qui promet un projet de loi spécifique dans les prochains mois. Alors malgré ce revers, l'essentiel est préservé pour la députée Caroline Yadan, auteure de la proposition de loi.
Je me réjouis. Le gouvernement va continuer à porter ce sujet dans le cadre d'un projet de loi qui aura une force pour dire à la France que la lutte contre l'antisémitisme doit être une lutte globale. LFI a perdu.
La prochaine étape, donc, le dépôt de ce projet de loi en juin, sans doute devant le Sénat cette fois. Manière pour le gouvernement de tenter de contourner une assemblée très fracturée sur le sujet. Quelques semaines après les élections municipales, plusieurs centaines de maires étaient conviés à l'Élysée ce matin. Objectif pour Emmanuel Macron, apporter un soutien appuyé à ceux qu'il considère comme, je cite, « les alvéoles du poumon démocratique du pays ».
Je veux ici vous encourager, vous dire qu'on est à vos côtés pour pouvoir justement à la fois développer vos projets, mais bâtir ce lien. Vous êtes les garants de ce qui nous réunit et qui doit aller avec de l'apaisement, avec une ambition comprise, partagée par tous.
Et parmi les promesses adressées aux maires, un engagement renforcé sur la question de la sécurité. Et enfin, une eurodéputée LFI veut faire interdire un événement à Caen. Emma Fourreau a lancé une pétition pour demander l'annulation d'un festin organisé par le Canon français. Mais alors, comment se passent ces soirées ? Charles Bouchin pour Europe 1.
Des banquets XXL, des bérets, du vin rouge dans les verres et des plats du terroir dans l'assiette, le tout sur un fond de variété française. Voilà la promesse des soirées festives du Canon français. Alors quand Pierre-Alexandre Deboise, un des fondateurs, apprend qu'une nouvelle fois LFI veut faire interdire cette grande fête, il ne comprend pas.
Peut-être qu'il y a une détestation du concept. Nous, on est là pour faire la fête, donner de la joie aux gens, valoriser les produits du terroir, soutenir nos filières agricoles qui en ont parfois bien besoin, valoriser les circuits courts, servir des vins français et faire la fête, tout simplement.
Et d'ailleurs, depuis 4 ans, ces fêtes séduisent de plus en plus de bons vivants. Le Canon français en est à une centaine de banquets organisés pour plus de 100 000 personnes rassemblées partout dans l'Hexagone.
Notre événement rencontre un franc succès, c'est-à-dire que les gens viennent, reviennent encore plus nombreux. On reçoit des milliers de messages de soutien, de gens qui veulent venir. Il y a des gens qui attendent que ça passe près de chez eux pour venir participer.
Samedi, pour ce banquet à Caen, l'organisateur espère que des partisans de la France insoumise ne viendront pas tenter de perturber la soirée. Des forces de l'ordre et un service de sécurité privée seront mobilisées pour veiller à ce que tout se passe dans le calme.
Charles Bouchin pour Europe 1. En bref, 44 ans après l'attentat antisémite de la rue des Rosiers à Paris, l'un des suspects, Hicham Harb, est extradé vers la France par l'autorité palestinienne. Cet homme, aujourd'hui âgé de 72 ans, est soupçonné d'avoir été le superviseur de cette attaque qui avait fait 6 morts à l'été 82. Emmanuel Macron salue cette extradition. Et puis toujours en bref, le corps d'une potentielle victime de Dominique Pélicaud exhumé pour les besoins de l'enquête. Cette dépouille est celle de Sophie Narme, une agente immobilière violée et tuée à Paris en 1991. Ces analyses visent à rechercher des traces ADN appartenant au septuagénaire condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite des viols de Mazan. Les résultats sont attendus dans plusieurs semaines. Il est 11h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause publicitaire avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et on reviendra notamment sur l'installation des conseils municipaux de Dimbéa et Païta.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Chérie, tu m'expliques ? C'est quoi tous ces sacs dans le salon, là ?
Je me prépare.
Prépare de quoi ? T'ouvres un magasin de sacs de course ou quoi ?
C'est bientôt l'anniversaire du complexe Le 4.
Mais non !
Mais si ! Tout le mois d'avril, promo dans toutes les enseignes, instant gagnant en caisse tous les jours, un panier garni de 20 000 francs chaque semaine.
Attends, attends, je vais chercher d'autres sacs dans le placard.
Attends, mais c'est pas tout ! T'as 200 000 francs de bon d'achat au tirage final.
Du 1er au 30 avril, le complexe Le 4 fête son anniversaire. Plus d'infos sur Facebook et directement en magasin.
À la croisée de la recherche et de l'action publique, le Congrès vous donne rendez-vous pour son événement Regards croisés, thèses et politiques publiques. Doctorants et docteurs y partageront leurs travaux pour éclairer et nourrir les politiques publiques. Venez échanger avec eux mardi 21 avril de 18h à 20h dans l'hémicycle du boulevard Vauban. Entrée libre.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec Nicolas Legrand.
Et près d'un mois après les élections municipales, les nouvelles équipes continuent de se mettre en place, je le disais. Tout ont procédé à l'élection de leur maire lors du premier conseil municipal. Celui qui suit est toujours aussi assez technique. Il permet de fixer les indemnités des maires et des adjoints, puis de désigner les membres des commissions, Charlotte Coulson.
Et dans le Grand Nouméa, ce sont les villes de Dimbéa et de Païta qui ont réuni leur conseil hier soir. La fixation des indemnités est assez encadrée. Elle dépend du nombre d'habitants de la commune. Pour autant, l'équipe majoritaire de Cynthia Jean à Dimbéa a tout de même pu faire quelques économies.
Oui, on a une enveloppe qui est destinée à la rémunération du maire et des adjoints. Moi, j'ai souhaité ne pas utiliser la totalité de cette enveloppe. Ça permet à la ville de Dimbéa de faire une économie sur la masse salariale. Alors, le montant total pour la rémunération du maire, des adjoints et des conseillers délégués est par mois de 4 177 000. Et nous utilisons 3 172 000 pour notre rémunération. Donc, on permet une économie sur la masse salariale d'1 million 5 810 francs exactement.
Et après cela, les élus ont désigné les membres des commissions, sécurité, urbanisme ou encore lien social. Les commissions se réunissent une fois par mois et les élus peuvent y débattre des points qui seront ensuite votés pendant les conseils. À Païta, pour cette mandature, il n'y a plus que 4 commissions contre 11 auparavant. Un choix délibéré du nouveau maire de la commune qui a décidé d'intégrer à la place des comités consultatifs Antoine Romain, maire de Païta.
Nous avons décidé, avec la majorité, mais aussi en accord avec une partie de ce qu'on appelle l'opposition, de diminuer le nombre de commissions permanentes, mais surtout d'ouvrir à la société civile au travers des comités consultatifs. Nous en avions très peu auparavant, nous en avons désormais plus d'une dizaine, qui vont nous permettre, selon les mêmes modalités de représentation des élus que sur les commissions obligatoires et les commissions permanentes, de pouvoir intégrer en grande partie la société civile, les associations, pour qu'ils puissent effectivement travailler avec nous, les élus, sur les décisions qui seront prises au cours de cette mandature, qu'il s'agisse du sport, des loisirs, de la culture, du handicap, de la scolarité, de l'enseignement. Sur toutes ces grandes thématiques, nous avons souhaité ouvrir la société civile pour pouvoir travailler de concert avec les administrés de Païta.
À Doméa, les premières commissions permanentes se réunissent ce matin et à Païta en fin de semaine prochaine.
Et je rappelle donc que c'est Cynthia Jean, maire de Doméa, qui sera l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Des élèves des lycées La Pérouse à Nouméa et Antoine Kella de Point-d'Imier seront sur les planches du Théâtre de Lille la semaine prochaine. Ils se mêleront à des comédiens venus de métropole pour jouer la pièce d'Alfred de Musset « On ne badine pas avec l'amour », Léana Colombo.
Oui, voilà 2 semaines que ces 20 élèves issus des provinces Nord et Sud se préparent et répètent pour présenter dès jeudi prochain cette pièce de théâtre devant le public. C'est le metteur en scène métropolitain Bastien Ossard qui était venu il y a 2 ans en Calédonie présenter sa pièce « Cyrano » qui collabore avec Dominique Jean de la compagnie de l'archipel. Une pièce qui mélange professionnel et amateur et qui offre une belle alchimie, décrit Bastien Ossard.
Ce qui se passe, c'est que l'énergie est très belle. Donc eux, ils représentent le cœur avec un H. Ils représentent le travail du cœur. Donc c'est vrai que cette énergie qu'ils ont amenée après avoir travaillé avec les comédiens et les rôles principaux est très bonne. Et d'autant plus qu'ils sont très motivés, ils sont très enjoués. Donc on avait un énorme travail à faire avec eux et qui s'est fait assez vite finalement, puisque justement l'entrain était là. Si on avait dû avoir affaire à des gens qui traînent la patte, ça aurait été plus compliqué. Mais là, ça s'est fait très naturellement. Donc, on est arrivé avec les propositions de mise en scène qui étaient assez claires dès le départ. Et eux se sont fondus là-dedans très, très rapidement.
Ces élèves ont ainsi passé toutes les vacances scolaires à répéter, mais pas de quoi s'en attrister. Pour beaucoup, il s'agit d'une expérience enrichissante.
Ok, ça marche. Ok. Voilà donc, ma chère Valérie.
Je m'appelle Elsa Peudetour, je viens du lycée La Pérouse. C'est assez stressant parce qu'on a envie forcément d'être à la hauteur, donc on essaye de faire au maximum pour pouvoir être bien, on essaye d'être respectueux les uns envers les autres, d'être sérieux, et puis ça nous permet aussi de rencontrer plein de gens et c'est diversifié. Et donc du coup, c'est très cool comme expérience pour moi en tout cas.
Moi, c'est Kwatai Badesi et je viens du lycée Antoine Kiela. C'est trop génial, les acteurs sont très sympas et tout le monde est très sympa et ça fait du bien d'être avec des personnes différentes et de faire connaissance avec plusieurs personnes.
Donne-moi vite cette main-là et ce joue-là que je t'embrasse.
Oh oui, monseigneur.
Les spectateurs pourront assister à la pièce de théâtre le week-end prochain, les 25 et 26 avril, au Théâtre de Lille à Nouville. Les billets sont disponibles sur ticket.nc et comme à l'accoutumée, les comédiens joueront avant devant un public de scolaires.
Merci Léana Colombo. Il est 11h54. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichot. On parlera de football avec cette qualification historique pour le club strasbourgeois et puis la présentation du XDeva.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Vous rêvez d'espace de rangement supplémentaire? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 routes de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Nicolas Legrand.
Et du football à la une de l'actualité sportive ce midi après le Paris Saint-Germain. Un autre club français s'est qualifié ce matin pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe, Léo Fichou.
Oui, il s'agit de Strasbourg et c'est une première dans l'histoire du club, fondé il y a 120 ans en 1906. Les Alsaciens ont renversé une situation mal embarquée puisqu'ils s'étaient inclinés 2-0 à l'aller sur la pelouse de Mayence. Mais ce matin, ils ont écrasé les Allemands 4-0 et décrochent donc leur billet pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Écoutez, le capitaine strasbourgeois, il faisait son retour ce soir, Emmanuel Méga.
Je veux juste dire, regardez l'atmosphère dans ce stade.
C'est chez nous. Last week, they disrespected us. No problem, we stayed quiet today.
Ils nous ont manqué de respect, on n'a pas parlé et on leur a montré aujourd'hui sur le terrain. Ce n'est pas seulement les joueurs. Je veux dire un grand merci aux spectateurs qui sont venus ici, qui étaient dès la première minute derrière nous. Et on leur a rendu sur le terrain. Je suis vraiment heureux.
Strasbourg, Rayo Vallecano, ce sera donc l'affiche de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Le match aller en Espagne, le retour à la Méno. Dans l'autre demi, le Shakhtar Donetsk sera opposé au Crystal Palace.
Du football aussi dans la région avec la 13e journée de l'OFC Pro League. Le Tahiti United 6e sera opposé à 18h au Vanuatu United 7e. L'équipe polynésienne et ses trois Calédoniens sont dans l'obligation de gagner s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales. Avant cela, à 14h, le South Island United 5e affronte le Solomon Kings 4e. Et puis on termine, Léo, avec sur le territoire un rendez-vous devenu emblématique à Bouraille pour les amoureux de sport en pleine nature. Je parle évidemment du X-Deva.
Oui, une 12e édition organisée demain et dimanche entre le centre d'accueil de Poé et le domaine de Deva par le Cercle des triathlètes de Nouvelle-Calédonie. Au programme, un cross-triathlon, un duathlon pour les enfants, une course de VTT mais aussi des randos. Marguerite de la Droitière est la présidente du CTNC.
Je pense qu'on est à peu près 90 sur le cross-triathlon. Donc c'est une discipline enchaînée, donc c'est 1200 mètres de nage dans le lagon au départ et à l'arrivée du centre d'accueil de Poé, puis 25 km de VTT sur les sentiers de Deva et 9 km de trail, pareil, avec un retour au centre d'accueil de Poé. À 14h, on a le Kids Cross. C'est l'idée, c'est de faire découvrir le triathlon aux enfants. On va faire un petit parcours un peu sympa, de manière à ce que les parents puissent encourager leurs enfants, les suivre s'ils veulent à vélo, en courant. Voilà, l'idée, c'est que les enfants s'amusent et que les parents puissent un peu voir leurs enfants comme ça se dépenser. Et le lendemain, on a la course de VTT. Il y a une seule course de VTT qui est chronométrée. C'est 29 km en VTT musculaire. Et partira légèrement décalé les vélos électriques. Là, c'est une randonnée. L'idée, c'est que les participants puissent profiter des sentiers de Deva.
Et pour toutes les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions. Une trentaine de bénévoles s'activent depuis plusieurs mois déjà. Des bénévoles qui sont sur place aujourd'hui pour les derniers préparatifs.
On a fait un très bel événement et on a la chance, la météo va être super. Et voilà, donc 12e année, un nombre de participants qui atteint nos objectifs, donc on est hyper contents. Et voilà, on espère que tout le monde sera très nombreux au centre d'accueil de Poé ce week-end.
Plus de 200 participants, toutes épreuves confondues, sont donc attendus ce week-end à Bouraille, la 12e édition du X-Deva. Si vous n'avez pas pu prendre votre place sur inlife.nc, pas de panique, l'organisation accepte les inscriptions de dernière minute ce vendredi sur leur page Facebook.
Merci beaucoup Léo Fichou. Il est 11h59, c'est donc la fin de ce journal.